France Musique. France Musique. Enrico Macias, enfant de tout pays, Virginie Bloch l'aînée.
Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors.
L'inspiration, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et on compte toujours sur cette providence, sur cette inspiration pour pouvoir continuer à composer des chansons.
Quatrième volet, l'Oriental.
Regard fatal, et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental, et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. On critique ma vie, mais on aime ma compagnie, à tout instant mon cœur s'attache. Mon cœur joue à cache-cache. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On m'a surnommé l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'Oriental, le bras haut, regard fatal. Et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. Chanson triste ou chanson gaie, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnole. La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit, le jour. On m'a surnommé l'Oriental, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'Oriental, le bras haut, regard fatal. Et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas mal, on m'a surnommé l'Oriental.
Bonjour Enrico Macias.
Bonjour.
Ce dernier volet de la série, je l'ai intitulé « L'Oriental ». D'une part parce qu'il sera question du retour à la musique judéo-arabo-andalouse que vous faites en 1999 en enregistrant un disque en hommage à Cher Raymond. Et d'autre part pour parler de l'icône culturelle que vous êtes très vite devenue et que vous restez. Alors, dans notre imaginaire, bien sûr, vous avez évolué. Vous n'êtes pas le même aujourd'hui qu'en 1962 ou qu'en 2000, ni même qu'avant et après le 7 octobre 2023. Et tout le monde ne vous voit pas de la même façon. Récemment, un jeune spécialiste de philosophie politique qui s'appelle Milo Lévy-Brulle a écrit « C'est d'Enrico qu'il faudrait écrire la biographie sociopolitique pour comprendre les enjeux du pays ». Alors, qu'en pensez-vous et quel oriental êtes-vous ?
Ça me fait plaisir, mais c'est très difficile de me demander à moi de me vanter de ça et que les gens le pensent, c'est très bien. Ça me fait plaisir, mais pas seulement maintenant. Ça me fait plaisir pour la trace que je vais laisser quand je partirai. Et ça, qu'on me le dise à ma place, ça, oui. Je voudrais qu'on dise ça quand je partirai ou sur mon épitaphe, si vous voulez mieux. Voilà.
Ce qu'il veut dire, Milo Lévy-Brulle, c'est que vous êtes vraiment au cœur de tensions, au cœur aussi d'ententes qui ont fait l'histoire de France depuis un demi-siècle.
Vous savez, je suis né à Constantine. Je vous ai dit déjà, je suis né dans une ville de ponts.
Oui.
Et moi, je suis un pont entre l'Orient et l'Occident et un pont entre les communautés qui ne s'entendent pas et que je veux rassembler.
Ce soir, vous aviez gardé une très grande fraîcheur d'âme, une très grande simplicité, une très grande gentillesse. Vous nous le prouvez en répondant gentiment et aussi décontracté. Vous pensez que vous allez rester comme ça ?
Supposant que je ne sois plus ce que je suis, oui, plus tard, ce qui arrivera, comme c'est la loi de tous les artistes, surtout que je ne devienne pas comme ça, parce que je crois que c'est trahir un petit peu tout ce qui nous arrive, et je crois que c'est un malheur, c'est une maladie de ne plus être simple, de ne plus être gentil, parce que c'est que le succès nous aura tourné la tête. Et c'est que finalement, on n'est plus soi-même et que la méchanceté et la bêtise aura remplacé la personnalité.
Mais est-ce que ce métier ne rend pas malade, justement, parce qu'il vous prend tellement de nerfs ?
Évidemment, il prend beaucoup. Oui, mais alors dans ces conditions, aussi, un pilote dans un avion devrait avoir la grosse tête.
Mais quand il rentre chez lui, il est tranquille, tandis que là, voyez-vous, vous êtes assailli par un producteur.
Quand je rentre chez moi, je suis tranquille. Dès que je vois ma femme et ma gosse, je suis tranquille. Il n'y a aucun problème.
Ça ne vous tourne pas la tête ?
Non, parce que, je ne sais pas, c'est peut-être... Parce que mon beau-père était un grand artiste, que j'ai vécu un petit peu dans son sillage, que je sais que c'est inutile d'avoir une grosse tête, qui me disait toujours que c'est le peuple qui nous amène.
C'est vrai.
Que c'est lui qui nous grandit, et parce qu'on représente le peuple, le jour où on délaisse le peuple, automatiquement les bras se lâchent, et on tombe et on est rejeté. Alors je préfère plus tard ne plus être une grande vedette, et avoir toujours des amis, que d'avoir une grosse tête maintenant, et plus tard ne plus avoir d'amis, parce que je sais qu'un jour ça sera fini.
J'étais intelligent, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est d'une logique incroyable. Mais c'est grâce aussi à tonton Raymond qui m'a appris la rigueur, l'humilité et ne pas se gargariser de tous les lauriers, de tout le succès qu'on peut avoir. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé un jour. Un jour, je jouais à la radio de Constantine avec l'orchestre. Et j'avais des fans du lycée, des copains qui venaient me voir à la radio. Et ce jour-là, j'avais pas mal joué, mais j'avais pas joué avec une conviction, je sais pas, enfin, en tout cas, c'était l'opinion de tonton Raymond. Parce que les fans sont venus, m'ont félicité, et ils m'embrassaient, ils me faisaient que des compliments, tout ça. Et tonton Raymond m'a dit, je veux te voir ce soir à la maison, tu viens dîner à la maison. Alors j'étais à la maison, dîner, j'étais content, comme ça je voyais en même temps ma fiancée Suzy. Et il m'a dit, tu sais... Comment tu as joué aujourd'hui ? Je dis normalement, mais pas comme d'habitude. Ah bon ? Et pourquoi alors tout le monde est venu te faire des compliments ? Ah ben je dis je sais pas, tonton, je sais pas. Il me dit, tu vois, les gens te font des compliments et toi tu es content. Mais si ils te ne font plus de compliments, ils te lâchent, toi tu tombes. C'est comme si t'attrapais comme ça. Et puis j'étais puni. Pendant 6 mois, j'ai pas joué à la radio avec lui. Il m'a dit, comme ça, ça t'apprendra. Et ça m'a appris l'humilité, la rigueur de bien faire et tout ça.
Est-ce qu'il était intimidant ?
Ah oui, il était très intimidant. Quand on mangeait ensemble, il était bien. Mais pour le travail, enfin, pour le rôle que j'avais dans son orchestre, il était très exigeant. Moi, je faisais le maximum pour le faire plaisir, parce que j'avais très très peur d'une remontrance ou quoi que ce soit, d'un reproche ou quoi que ce soit. Je voulais toujours bien faire pour lui. Pour lui, pas pour moi, pour lui.
Comment a commencé, Enrico Macias, l'aventure du disque en hommage à Cher Raymond que vous avez fait du disque et du concert en 1999?
Oui, alors je crois que c'est mon beau-frère Jacques Léris, le docteur Léris, qui était en rapport avec Jean-Michel Boris de l'Olympia, qui me propose de faire un... Et mon fils Jean-Claude aussi me dit, tu devrais faire de la musique arabo-andalouse. On a réglé un truc pour toi. Tu vas te produire au printemps de Bourges avec cette musique. Et là, j'ai réappris, parce que les textes, je les connaissais pas. Je connaissais que la musique. J'avais jamais chanté de cette musique devant... Parce que devant le maître, personne ne chante. Que c'est un affront qu'on lui fait de chanter à sa place. On ne fait jamais ça. Et maintenant qu'il est parti, j'ai voulu lui rendre hommage en enregistrant le spectacle de Printemps de Bourges. Et j'ai travaillé pendant 6 mois les textes. Parce que c'est une musique, c'est oral, on apprend ça oralement. Et les textes, je voulais les apprendre par cœur, parce que quand on lit un texte, c'est pas la même chose que quand on les connaît par cœur, parce qu'on on transmet une émotion différente quand on connaît par cœur. Surtout le malouf, quoi.
C'est de l'arabe classique ?
Oui, il y a un mélange. Certaines chansons, c'est de l'arabe classique, et d'autres chansons, c'est de l'arabe dialectal.
D'accord.
Populaire. Mm-hmm. Parce qu'il y a une partie populaire et une partie classique.
Le concert s'est très bien passé.
Ah oui, c'est super bien passé. Puis même le disque était très très bien. Je suis très content d'avoir fait ce disque. Et ça m'a remis... parce que je commençais à avoir une petite baisse avec le public et tout, ça m'a remis en selle avec le public aussi.
À la fin du concert, à Bourges, vous avez chanté en duo avec Chem Mami.
Ah non, c'était à l'Olympia.
Ah, je croyais que c'était à Bourges,
Kuntara. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Avec Chem Mami, nous avons fait, nous avons chanté une chanson de la musique classique algérienne, et c'est Kuntara. Ça s'appelait comme ça. D'ailleurs, je me rappelle, c'est mon fils Jean-Claude qui nous a enregistrés. Et c'est à cause de cet enregistrement que nous sommes passés à l'Olympia. Parce que à l'Olympia, on a voulu montrer la fraternité entre deux artistes algériens, mais qui ne sont pas... qui ne vivent. Enfin, moi, je ne vis plus en Algérie, mais... il y avait une fraternité avec Cheb Mami, voilà.
Elle est merveilleuse, cette interprétation.
Oui. D'ailleurs, on peut l'écouter, hein.
Ah bah oui, on peut l'écouter.
قداش قلبي معذب قداش مازال يقاسي ولي عملته بيدي يا عباد الله مكتوب مكتوب في جبين راسي في جبين راسي
عمري ما دنيت زين تروح لقيت هاي بيت الخمامة حتى حما فيا دمى وزين عند مالي قلبي نالك هكذا قلبي نالك هكذا
قوم ترى
pouvez faire, Enrico Macias, des commentaires sur la voix de Chem Mami.
Alors, autant moi j'ai une voix grave,
oui.
Autant lui il a une voix aiguë, incroyable, oui. C'est plus qu'un ténor.
Et on a l'impression qu'il peut se faufiler partout avec sa voix.
Ah mais il fait des intonations spéciales, il n'y a que lui qui peut faire ça, il n'y a que lui. C'est son style.
Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont il prononce l'arabe et la façon dont vous prononcez l'arabe ?
Oui, l'accent est différent. Mais enfin, bon, moi j'ai l'accent constantinois quand je chante en arabe. Et lui, il a l'accent de l'ouest de l'Algérie.
Il y a un autre chanteur algérien que vous aimiez beaucoup, je crois, c'est Rachida.
Ah, j'adore Rachida. C'est le premier qui a chanté une chanson que... Je peux plus me détacher. J'ai repris son tube Yaraya et moi je la chante encore jusqu'à présent.
Il l'a popularisé.
Ah oui. C'est grâce à lui. C'est une chanson qui vient du Chaabi.
C'est-à-dire de la variété, c'est ça que
c'est de la variété algéroise, kabyle aussi. C'est un grand chanteur qui s'appelait, celui qui l'a écrite s'appelle Dahman Harachi. Et lui, Rachid Taha, il a reprise dans le style authentique de Dahman, mais il l'a modernisé.
Oui.
Et c'est devenu quelque chose d'extraordinaire.
Oui.
D'ailleurs, c'est devenu une chanson presque française.
Oui.
Dans tout, partout en France, on la chante.
Oui. Et vous l'avez chantée au Dôme de Paris.
Voilà. Et je l'ai chantée au Dôme.
Oui.
Voilà.
Et voilà. مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
Peu de temps après ce concert, en 2000, Enrico Macias, vous pensez pouvoir retourner en Algérie. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Le président Bouteflika vous a dit que ce serait possible, que ça allait être possible.
Pas qu'il m'a dit, il m'a invité.
Il vous a invité.
Officiellement, à Monaco, parce qu'il ne pouvait pas venir sur le sol français, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, j'étais à Monaco. Avec beaucoup d'autres artistes, il y avait même Robert Castel. Et je suis arrivé, il a dit au micro, j'aimerais qu'Enrico Macias vienne en Algérie, je l'invite et tout ça. Puis, au moment où j'ai commencé à faire mes valises, on a fait marche arrière et j'ai pas pu y aller. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent. Enfin, je devine.
Oui, on peut deviner. Oui.
Je devine que c'est ma proximité peut-être avec Israël, à cause de mon identité juive, je ne sais pas.
C'est-à-dire qu'on vous a fait comprendre que si vous y alliez, c'était dangereux pour vous, ou vous n'avez même pas obtenu...
Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était dangereux pour moi. Moi, je ne crois pas, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire je ne sais pas. Je suis dans l'interrogation la plus totale.
Après ce refus, cette déception, vous avez composé avec Jean-Claude Crenassia, votre fils, un album magnifique qui s'appelle Orange Amère. Et sur cet album, il y a une chanson écrite par Jean-Loup Dabati qui s'appelle Le Voyage.
Le Voyage, ouais. Bien sûr. Vous savez comment on a écrit cette chanson? Parce que Jean-Loup Dabadji était persuadé que j'étais parti en Algérie. Et un jour, on va déjeuner ensemble, et il me dit, raconte-moi ce qui s'est passé en Algérie. Là, je m'aperçois qu'il croit que j'ai été en Algérie. Et je lui dis, justement, on devrait faire une chanson qui s'appelle Le Voyage. Et lui, il a écrit la chanson en pensant que j'ai été en Algérie. Mais moi, je lui ai dit, tu sais, j'ai pas été en Algérie. Et il a rajouté un refrain pour montrer que je ne suis pas retourné en Algérie. Voilà.
Elle est magnifique. On croit que vous parlez
d'une femme.
D'une femme, oui.
Oui, mais on parle aussi d'une femme, mais que je l'ai retrouvée.
Oui.
Mais je ne l'ai pas retrouvée.
Oui.
Cette femme-là n'existe plus pour moi. Oui.
Si nous nous sommes tant aimés et que nous sommes séparés, non, ce n'est pas que je peux me passer d'elle, je suis resté fidèle. Et quand on lui fait du mal, c'est tout mon corps qui a mal, c'est tout mon cœur qui se tord, elle est si belle, je suis resté fidèle. J'ai tant rêvé de ce voyage, on m'a défendu le passage, moi qui n'avais dans mes bagages qu'une mémoire et des images. Elle m'attendait, je le sais, c'est un parfum que je connais, et la couleur de ce ciel au-dessus d'elle, la douleur sous le miel. La fête n'était pas secrète, et oublions les souffrances, les mains des femmes préparées comme dans l'enfance, le repas sur les flammes. J'ai tant rêvé de ce voyage, des fous m'ont barré le passage, j'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée. Les matins, lorsque nos mains se rassemblent, les beaux chagrins, quand on est tout seul ensemble, la douleur sous le miel. Je ne l'ai pas fait ce voyage, des fous m'ont barré le passage, j'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée. Si nous nous sommes tant aimés et que nous sommes séparés, non, ce n'est pas que je veux vivre sans elle, je suis resté fidèle. 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 Je suis resté fidèle.
La situation politique en Algérie est terrible.
Boualem Sansal.
Moi, je vais en Algérie. J'ai jamais vu un régime aussi dur que celui-ci, celui que nous avons actuellement.
Quelle est la situation actuellement en Algérie ?
L'Algérie, c'est que l'armée a pris totalement le pouvoir et elle écrase tout. Les prisons sont pleines de journalistes, sont pleines d'intellectuels, tout est à l'arrêt.
Vous avez participé au Irak, au mouvement de protestation. Oui. Comment les choses se sont-elles déroulées et comment ce mouvement voit l'âme sans ça ?
J'ai participé les premiers temps. Ça paraissait tellement plein d'espoir. On est sorti dans la rue les premières semaines, jusqu'à 10-15 millions de personnes dans les rues. Qui chantait, qui dansait, qui c'était absolument merveilleux, quoi. Mais très vite, on a compris que tout cela était manipulé et par les uns et les autres, ou que ça a été récupéré en partie par les islamistes, en partie par des clans de l'armée qui se faisaient la guerre, parce que ce Irak est intervenu sur un arrière-fond de crise de succession
de
régime. Voilà, le régime Bouteflika a été fini. Qui prendrait la suite ? Tout le monde était candidat. Les islamistes, évidemment, les différents islamistes, les djihadistes et puis les autres plus...
Et alors pour vous, c'est quoi ? C'est la peste et le choléra ?
C'est les deux. Oui, c'est les deux. Mais l'Algérie vit dans ce contexte depuis toujours, depuis l'indépendance. Hein. Peste et choléra à la fois.
C'est Boualem Sansal au micro de France Culture en juin 2023. Et il a été arrêté le 16 novembre 2024 en arrivant de Paris à l'aéroport d'Alger. Et il est, pour le moment, toujours prisonnier, condamné à Alger.
Je suis malheureux pour lui. Je suis malheureux. Il est sincère, Boualem Sansal. Moi, en tout cas, comme je ne vis plus en Algérie, je ne peux pas être à la fois acteur et spectateur. Là, pour le moment, je suis que spectateur de ce qui se passe en Algérie. Et je souhaite que Boualem Sansal retrouve la liberté. C'est tout ce que j'ai à dire.
Pas un nuage dans mes pensées. Je n'y vois vraiment que du bleu, avec des bouts de Méditerranée posés sur des rivages paresseux. Rien que du bleu, rien que du bleu. Le vieux marché brûlant d'épices, des mains qui disent un mot sur deux, un regard qui s'envole en mer et glisse sur l'eau profonde au bord des jours heureux. Rien que du bleu, rien que du bleu. Pour voir un peu plus loin que le bout d'un chemin. Du bleu pour peindre tous ensemble un ciel qui nous ressemble, plein de vie et de larmes, de joie et d'amour dans le grain de ta voix. Désoriente, le violon des cœurs de cigale nous saoulera de lendemains qui chantent quand le soleil nous ouvrira le bal. Rien que du bleu, rien que du bleu, pour voir un peu plus loin que le bout de notre chemin. Du bleu pour peindre tous son sang, un ciel qui nous ressent, plein de vie et de larmes, de joie et d'amour dans le grain de ta voix. Un nuage dans mes pensées, je n'y vois vraiment que du bleu, avec des bouts de Méditerranée posés sur des rivages paresseux, rien que du bleu, rien que du bleu, pour voir un peu plus loin que le bout de notre chemin, du bleu pour peindre tous ensemble un ciel qui nous ressemble, plein de vie et de larmes, de joie et d'amour dans le grain de ta voix. Rien que du bleu, rien que du bleu, rien que du bleu, rien que du bleu.
France Musique, Enrico Macias, Enfant de tout pays, Virginie Bloch-Lenay.
Dans cette partie de la série qui s'appelle L'Oriental, j'aimerais parler aussi de l'homme, du père de famille que vous êtes. Plusieurs fois au cours de la série, on a parlé de votre fils Jean-Claude Grenacia, qui est musicien, contrebassiste, avec lequel vous jouez sur scène. Vous avez une fille, Josia, et vous êtes un père. Quel père êtes-vous, d'ailleurs?
Ah, j'essaye d'être un père cool. Je suis un père exigeant sur l'avenir de mes enfants. Mais je suis gâteau aussi, père gâteau pour les petits-enfants. Ça, personne ne me l'enlèvera. D'ailleurs, mon fils adore ses enfants, et il a un chien, alors faut voir comment il adore son chien, hein, faut voir. Alors qu'est-ce que ça sera quand c'est très lourd des petits-enfants?
Depuis quelque temps, ma fille a changé, j'ai le sentiment qu'elle me cache quelque chose. Hier, une enfant, une femme à présent, elle doit à son tour penser à l'amour. Une fille à marier, mon Dieu, quel souci. Elle est quand même bien pressée de prendre un mari. On le voudrait si parfait, on est déjà très inquiet. Mais d'où vient ce séducteur qui a pris son cœur? Savoir le fond de l'histoire, surtout pas de drame. On en parle avec sa femme qui est au courant depuis si longtemps qu'on pense aussitôt que c'est un complot. Une fille à marier, mon Dieu, quel souci. Elle est quand même bien pressée de prendre mari. On l'invite pour dîner, il se sent un peu gêné, mais quand il repartira, on l'embrassera. Elle est tout en blanc, il est tout tremblant. Tout le monde est content et que la fête commence. Champagne et cadeau, rien n'est assez beau pour ces amoureux qui nous rendent heureux. Une fille à marier, mon Dieu, quel souci. On est enfin rassuré, elle a bien choisi. On a partagé sa fille avec une autre famille et l'on attend maintenant nos petits-enfants.
La 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 la
Bonjour.
Enchanté, Léo, la société.
Ah, Léo, ça va?
Ça va,
je connais ta mère.
Ouais, elle est là, elle est juste.
Ouais, je l'ai embrassée.
Dans les coulisses d'un concert d'Enrico Macias qui se déroule à la Casbah, une boîte de nuit, nous retrouvons son fils, Jean-Claude Grenacia.
Le chaos, c'est la vie.
Oui.
Ils ont vécu d'autres choses. C'est des générations encore qui ont vécu. Ils ont vu ce qu'était réellement la guerre, ils ont vu ce qu'était la pauvreté aussi. Ils ont vu ce qu'étaient des pays avec des vraies difficultés pour même des gens qui n'arrivaient pas à se nourrir. Ils ont vu ça. C'est une génération qui a vu ça. Nous, on est la génération de l'île aux enfants, en fait. C'est beaucoup plus sympathique.
Est-ce que vous trouviez, Jean-Claude Grenacia, est-ce que vous sentiez une mélancolie chez votre père? Parce que quand vous êtes né, il y avait déjà plusieurs drames, plusieurs gros chagrins. Et est-ce qu'il portait ça ou ça se mélangeait à la gaieté? Comment ça?
En fait, j'ai l'impression que malgré toutes les épreuves que mon père ou mon grand-père ont eues à vivre, des grosses épreuves de deuil, de déchirement, d'exil, la mélancolie a été retranscrite dans la musique et dans leur forme artistique d'expression. Il y a une grande anxiété qui a été, à mon sens, transmise dans nos familles, surtout du côté de ma mère, surtout après l'assassinat de Cher Raymond. Et puis, comme le deuil de l'assassinat de Cher Raymond en 61 n'a pas pu réellement être... Ils n'ont pas eu le temps de le faire, ce travail de deuil. Eh bien, c'est pas sous le registre de la mélancolie que ça s'est transmis, mais plus sous le registre de l'anxiété, je pense. Une forme d'anxiété diffuse, une forme d'anxiété presque permanente qui s'est retransmise.
Il dit, votre père, qu'il était exigeant avec ses enfants à propos de leur avenir.
En même temps, il dit ça, mais j'ai jamais réellement ressenti une pression dingue. Je pense que de par le travail de mon père, de par son absence qui est liée à un travail où vous partez, surtout dans les années 70, où vous partez 3 mois... Je pense que c'est ma mère qui a eu le rôle plus de s'occuper de notre avenir. Et je pense qu'elle a eu un rôle beaucoup plus structurant.
Elle était exigeante?
Elle était exigeante sur la façon de se conduire, je pense. Pas comme dans certains milieux. En fait, nous ne venons pas de milieux bourgeois. Donc, il n'y a pas eu l'exigence des milieux bourgeois... où il faut faire des grandes études à Henri IV. Alors, bon, il se trouve que moi, j'ai fait des études, mais il n'y avait pas cette sorte de tradition d'aller faire des grandes études, mais juste l'exigence de bien se conduire, en fait. Tout simplement, d'avoir des valeurs, comme tout à chacun.
Qui assiste au concert de votre père? Est-ce que vous avez vu un changement ces derniers temps?
En fait, je pense que c'est par vagues. Il y a des périodes où le public est plus rajeuni. Ces derniers temps, je vois que quand même les concerts d'Enrico sont assez intergénérationnels. Et avant, on voyait 2 générations, après on en a vu 3, et maintenant on en voit parfois 4. C'est assez rigolo. Je remarque aussi en province un public très féminin aussi. C'est vrai que le public d'Enrico Macias, c'est un public qui réunit différentes communautés. Il y a beaucoup de Kabyles qui viennent aussi, des gens de Kabylie qui viennent écouter Enrico.
Est-ce qu'il continue d'aimer faire des concerts?
Je pense qu'il adore faire des concerts. Il aime moins le déplacement pour faire des concerts. Je pense qu'évidemment, un artiste de 85 ou 86 ans, qui est même s'il est en bonne forme, il ne peut pas faire... une tournée en tourbus avec 100 dates d'affilée. Non, c'est pas possible. Mais en tout cas, il a cet amour du public qui le pousse à se lever, à prendre un train et à faire des concerts.
Est-ce que vous avez une chanson préférée de votre père?
Ah. Il y a une chanson qui me restera toujours au fond de moi-même, c'est « Au talon de ses souliers ». Parce qu'elle parle d'une manière extrêmement poétique, de, on parlait de la mélancolie, de la nostalgie, mais avec un rythme soutenu. Il y a aussi une autre chanson que j'aime beaucoup, qui est une vieille chanson, qui s'appelle « Ma patrie ». C'est une sorte de patrie chimérique, une patrie que l'on se crée par sa propre pensée et par ses propres désirs ou par ses propres rêves. On sent presque une Méditerranée un peu chimérique dans cette chanson.
Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui n'est pas connue, qui est « L'île du Rhône ».
Ah, oui, alors « L'île du Rhône », c'est une très belle chanson qui a en fait traité de ces pieds noirs qui sont arrivés en France et qui, pour beaucoup, se sont installés soit dans le sud de la France, soit dans la région lyonnaise. Et c'est une chanson dont la musique, je trouve, est très influencée par Brassens.
Exact, oui.
Et le texte, il montre très bien, en fait, comment on surmonte un exil. Et c'est un peu ça l'idée de mon père. Mon père, il n'y a jamais d'identité figée dans sa musique. Si c'est une identité pied noir, ou si c'est une identité judéo-arabe, ou si c'est une identité française, elle est toujours dans l'altérité et elle est toujours dans le dépassement des identités un peu trop réduites ou trop limitées. Voilà, quand mon père chante « J'ai quitté mon pays », il chante « Paris, tu m'as pris dans tes bras » juste après. C'est ça qui est intéressant, je trouve, chez lui. Beaucoup plus qu'un artiste qui aurait tout le temps revendiqué ou tout le temps... Non, il a... Et c'est un peu aussi l'époque des années 60 qui était un petit peu comme ça. Je voyais une émission qui repassait à la télévision où il y avait Dalida, il y avait Claude François, il y avait mon père dans les années 60. Et en fait, il y a de la Méditerranée, il y a... Mais tout ça dans une France, quand même, la France des années 60, qui était une France qu'on croyait finalement pas très ouverte ou sûrement très stratifiée socialement. Et je trouve que, en fait, la France, c'est un peu ça aussi. C'est à un moment donné un dépassement des choses.
Vous avez dit on n'était pas des bourgeois. Est-ce que vous pensez que vous êtes devenu bourgeois dans votre... Non.
Oui, sûrement sur certains points, bien sûr. Vous savez, ce qui est important, c'est de regarder les gens pour ce qu'ils sont. Pas de par leur statut social ou de par leur statut économique ou tout ça. C'est un peu la leçon que Camus donnait par rapport à ça. Lui qui est devenu le prix Nobel, fils d'une femme de ménage analphabète. Voilà, c'est un peu dans cette éducation de les gens sont ce qu'ils sont. Et non, on n'a pas été éduqués, même si on, bien sûr que la vie, l'argent à un moment donné, puis aussi les chutes par rapport à ça. Et on apprend beaucoup des chutes. Et on apprend aussi que la manière dont on a été élevé fait qu'on est résistant et on est fort à tout ça.
Tu vois, Serge, j'ai eu tout ce qu'un homme peut désirer. Une femme merveilleuse, deux filles adorables, belles, gentilles, intelligentes. J'ai bien réussi dans les affaires. Mais il y a une chose que j'ai toujours regrettée, c'est de ne pas avoir eu de fils. Et Dieu m'a entendu. Ma fille Dina a épousé Simon, et maintenant il y a toi.
Vous savez, monsieur Boutboul, moi...
Fais-moi plaisir, tu veux. Tu m'appelles Maurice et tu me dis tu, hein.
C'est très bien. Vous savez, il faut que je vous dise
non,
que...
Non, écoute, c'est moi qui parle. J'ai une affaire très saine. Il n'y a pas que les magasins, hein. Il y a l'usine, la scierie, et puis il y a les forêts, hein. Tout ça, à mon âge, c'est très lourd, très lourd. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me succéder, quelqu'un de confiance. Je ne peux pas demander ça à Simon. Il est médecin, le pauvre.
Oui, mais vous savez, Maurice, moi, je ne suis pas du tout...
Dans le meuble, je sais. Mais vous... Les polytechniciens, vous savez vous adapter, non? Moi, je suis de l'ancienne école, comme on dit. Aujourd'hui, si on veut survivre, il faut gérer l'entreprise autrement. Et pour ça, tu serais, mais alors, parfait.
Enrico Macias, vous avez fait du cinéma.
Ah
aussi.
Oui, j'ai fait La vérité si je mens, Cocorico, Bienvenue à bord, Family Business pour une série. Bientôt, il va y avoir un feuilleton de Jean-Luc Reichmann.
Oui.
Léo Mattei. Je joue dans son feuilleton.
Et vous jouez votre propre rôle ?
Ah, je suis patron de cabaret. C'est marrant. Et là, en ce moment, je tourne une série pour TF1, Maison de retraite. Mais c'est pas le film, le numéro 2, il est fait déjà, il est sorti. Mais là, maintenant, c'est des épisodes. Là, on va tourner 2 saisons.
Est-ce que vous avez déjà fait du théâtre ?
Oui, ça a été une demi-réussite et un demi-échec. C'est-à-dire, j'ai joué au théâtre pendant 8 mois, mais j'ai pas eu la chance de jouer la pièce à Paris. Mais ça a été une mauvaise expérience dans la mesure où je croyais que c'était facile et j'ai manqué de rigueur parce que j'avais jamais étudié la comédie, quoi, l'art dramatique.
Est-ce que vous écoutez la variété française qui se fait maintenant ? Est-ce que vous êtes...
J'écoute tout.
Oui.
J'écoute tout.
Est-ce que vous voyez, là, maintenant, parmi les chanteurs actuels, est-ce que vous pensez avoir des héritiers ?
Oui, il y en a un. C'est Kenji. Kenji, je le vois très bien me succéder. Pas tout de suite, hein. Mais après...
Je crois que j'étais bien trop lâche pour lui dire adieu les yeux dans les yeux, parti sans même prendre bagage, pensant faire ce qui était mieux. Je fais toujours ce même rêve, je me vois remonter le temps, revenir à nos
Brésilienne. Est-ce que vous aimez la musique brésilienne ?
J'adore, j'adore. J'adore tout ce qui est d'Amérique du Sud. J'adore la musique. J'aime encore plus la musique cubaine que brésilienne. Le cubain, ça se rapproche beaucoup de la musique arabo-andalouse. D'ailleurs, il y a des instruments chez les Cubains qui sont les mêmes que dans la musique arabo-andalouse.
Parmi les chanteurs et chanteuses cubaines, qui aimez-vous ?
Cigala.
Diego El Cigala,
qui
est espagnol et qui a fait un disque en duo avec Bébé Valdés.
Oui,
oui,
c'est magnifique.
On va écouter cette chanson, Lacrimas Negras.
J'adore cette interprétation. Et si je pouvais un jour me faire accompagner par Valdés, ça serait génial.
Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Ça, c'est le jazz que j'aime.
Est-ce que vous jouez du piano, Enrico Macias?
Non. Je joue d'une main, je joue que des mélodies. D'une main. Je joue le piano comme je joue de la guitare.
D'accord.
Sauf qu'à la guitare, je fais des accords, mais pas au piano.
Merci beaucoup, Enrico Macias.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup. Hein. Merci, Virginie. Merci. Merci, tout le monde.
Ce soir, le vent dans les roseaux joue de la flûte après minuit et me souffle un nain les mots que je ne t'ai pas encore dit. Entre nous encore et toujours, c'est la première nuit elle-même. Premier baiser du premier jour qui nous réveille puisque l'on s'aime. Il faut cueillir la fleur de l'âge tant que les rouges ont de l'éclat, car ces heures-là sont trop volages pour les laisser filer comme ça. Il faut cueillir la fleur de l'âge et respirer ces parfums lourds d'amitié vraie sans étalage et de silence doré d'amour. Ce soir, le vent dans les roseaux me ramène boulevard de l'abîme.
C'était Enrico Macias, l'enfant de tout pays.
Où l'on prenait la vie de haut.
Une émission de Virginie Bloch-Lenné, réalisée par Pierre Villers.
Dans nos serments les plus intimes.
Mixage Manon Houssin, prise de son Éric Boisset, recherche Ina, Marie Jarros.
On aurait 100 fois 20 printemps, chaque seconde et mille raisons.
Vous pouvez retrouver les titres des chansons sur le site de l'émission.
De mêler amour et présent.
Enfin, merci à Amélie Dor, Jean-Claude
sans
Grenacia et Raphaël
saisons.
Pau.
La fleur de l'âge, tant que les rouges ont de l'éclat, car ces heures-là sont trop volages pour les laisser filer comme ça. Il faut cueillir la fleur de l'âge et respirer ses parfums lourds d'amitié vraie sans étalage et de silence doré d'amour. Cueillir la fleur de l'âge et respirer ses parfums lourds d'amitié vraie sans étalage et de silence doré d'amour. Ce soir, le vent dans les roseaux joue de la flûte avec mon cœur.
France Musique.